Je vous ai dit que nous allons entamer une série d'études sur la crainte de Dieu. Et ce soir, nous allons voir une chose, un aspect, et puis les prochaines fois, d'accord, on essaiera de voir d'autres choses concernant la crainte de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie ce thème? Eh bien, je vous donne tout de suite, j'ai fait des petits papiers, donc je vais vous donner des papiers. Si quelqu'un peut m'aider à distribuer ça, j'espère que j'en ai assez. Il y en a encore d'autres en train d'être imprimés. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, une par personne, normalement, s'il n'y en a pas assez... Il y en a une bonne vingtaine là, il y en a encore quelques-uns, j'espère que j'ai laissé l'imprimante en train de tourner, donc que ça a pu faire les choses comme il faut. Ah. Ça y est, tout le monde a pu avoir. Est-ce qu'il en manque là? J'en ai encore une ici, si quelqu'un n'a pas. Je crois que j'en ai quelques-unes, c'est l'imprimante. Ouais, prends pour moi. Donc, ce que nous voulons voir, peut-être ce soir, c'est... il en manque encore une. C'est l'importance de la crainte de Dieu. Et on voulait... Je voudrais voir ce soir l'importance de la crainte de Dieu dans l'Écriture. Quand on étudie un thème, il faut parfois regarder un peu son importance. On va pas ce soir définir qu'est-ce que la crainte de Dieu. Ouais, je vais garder sur la chaise toujours, c'est comme ça si quelqu'un arrive. On va pas définir ce que c'est que la crainte de Dieu ce soir. Peut-être que vous avez vos idées, mais on verra ça une autre fois. Mais il m'a semblé important, en lisant un livre hein, qui traite de ce sujet, que c'est bien de commencer par l'importance du thème, et ensuite de voir, de chercher la définition et comment est-ce que ça peut être vécu. Je pense que c'est bien, avant de regarder qu'est-ce que ça veut dire. C'est bien de savoir que c'est important. Et donc, si c'est important, il faut chercher ce que ça veut dire et comment on peut le pratiquer. Alors, est-ce que c'est un thème important dans l'Écriture? Oui. On trouve plus de 150 fois, 160 fois le thème de... juste avec le mot « crainte de Dieu hein, » dans les Écritures. Hein. Donc, c'est un thème qui est très important. Et Dieu... dit quelque chose à Malachie, c'est le verset que j'ai mis au début ici, Malachie chapitre 1 verset 6, donc Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, et il dit, si je suis, il parle au peuple d'Israël, à ce peuple qui est, comment dirais-je, en train de rendre à Dieu un culte avec, très formaliste quoi, sans cœur, où ils offrent des bêtes chétives à Dieu, etc., et où ils méprisent Dieu, hein. Dieu dit qu'il est méprisé. Et il dit, si je suis maître, je pense que j'ai mis deux fois si je suis ici, hein, quoique j'ai dû effacer une partie, j'ai oublié l'autre. Donc, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc, Dieu dit, voilà, si je suis seigneur, d'autres textes disent, où est la crainte qu'on a de moi? Autrement dit, Dieu dit, si je suis Dieu, si je suis seigneur, vous devez me craindre. Elle est où donc cette crainte? Donc ça commence, déjà on voit l'importance pour Dieu dans le reproche qu'il fait au culte que l'on rend de manière formelle, sans cœur, il pose cette question. Alors je vous ai mis des petits trous ici, hein, pour que vous puissiez participer et remplir ici. Donc on va voir d'abord que Dieu, alors on va lire le verset qui vient en Deutéronome chapitre 4 verset 10. Il est dit, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel. C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël avant l'entrée en Canaan. Et il leur rappelle des choses. Il dit, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. D'accord ? Donc on voit ici que Dieu dit à Moïse, tu m'assembles le peuple pour que le peuple puisse entendre mes paroles dans le but afin qu'ils apprennent à me craindre. Donc j'ai mis ici, bon, premier espacement, on pourrait mettre ici que Dieu exige la crainte de son nom. Dieu exige la crainte de son nom ici. C'est ce qu'il dit ici. Donc l'enseignement de la crainte, on pourrait dire ici hein, que l'enseignement de la crainte ici de Dieu est l'objectif de l'écoute de sa parole. Pourquoi est-ce qu'on écoute la parole de Dieu? D'accord? Pourquoi est-ce que le peuple devait écouter la parole de Dieu ici, selon ce que Dieu lui-même dit, afin qu'ils apprennent à me craindre, pour apprendre la crainte de l'Éternel. Donc Dieu exige la crainte de son nom. Et non seulement cette crainte de Dieu est un objectif, mais on peut voir aussi que cette crainte de Dieu est, c'est le deuxième point ici, on le voit très facilement dans Deutéronome 6, 24, qui est juste en dessous. Qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel. Donc, la crainte de Dieu est commandée par Dieu. Deuxième point, petit b. La crainte de Dieu est commandée par Dieu. Dieu l'exige et il commande. C'est pas simplement qu'il dit, je veux que ce peuple entende mes paroles pour qu'il me craigne. Mais Moïse dit ici que l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique sa parole et il nous a commandé de le craindre. Donc craindre Dieu est quelque chose que Dieu exige et qu'il commande. Et cette exigence, on peut la voir à travers toute l'écriture. J'ai mis ici quelques versets, mais vraiment, je vous ai dit qu'il y en a plus de 150. On aurait passé la soirée à regarder tous les versets où il est question de la crainte de Dieu. Mais quelques-uns, on a déjà lu Malachie chapitre 1, verset 6, où Dieu s'étonne vraiment que le peuple ne le craigne pas. Mais au psaume, quelqu'un veut lire psaume 2, verset 11, peut-être les versets qui sont là, psaume 2, verset 11, et quelqu'un d'autre cherche Ésaïe 8, 13 pendant ce temps. Psaume 2, verset 11. Quelqu'un là, dès que vous l'avez, vous le lisez. Voilà. Là, il est question de quoi? Du fait de servir Dieu. Mais c'est un commandement au service comment? Avec crainte. C'est pas simplement servir l'Éternel, point. C'est servir l'Éternel avec crainte. Donc la crainte dans le service est aussi commandée. C'est pas simplement commander de servir, mais aussi la crainte dans le service. Ésaïe 8, verset 13. Et redouter. Voilà, ce passage où le peuple est encouragé à ne pas craindre n'importe quoi, etc. Il dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier et c'est lui que vous devez craindre. La crainte est un devoir qui doit être rendu à Dieu. On doit le craindre. C'est une obligation de craindre Dieu. Et on trouve, bien sûr, dans l'Ancien, beaucoup d'autres versets de l'Ancien Testament, hein, dans les psaumes, etc. Je ne vais pas les mettre ici, mais vous pouvez toujours les chercher. Mais on va regarder aussi que dans le Nouveau Testament, il y a cette exigence à la crainte. Matthieu 10, 28, par exemple. Qu'est-ce qu'il a, Matthieu 10, 28? Voilà, et ça, c'est le commandement de, c'est la parole de Jésus lui-même, qui dit... Il y a des choses qu'on ne doit pas craindre, d'accord? Des peurs que l'on ne doit pas avoir. Par contre, il y a une crainte que l'on doit avoir, c'est la crainte de celui qui peut tuer le corps et mettre l'âme dans la géhenne. Donc il parle de Dieu lui-même. Il dit, lui, vous devez le craindre. Les autres, vous n'avez pas besoin d'avoir crainte, même par rapport à la mort. 1 Pierre 1, 17, ça on a lu ça dans nos études du dimanche. Donc 1 Pierre 1, 17. Je vais le lire. « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. » Il dit, voilà, vous dites que Dieu est votre père, que Dieu est le juge, vous réclamez d'être enfant de Dieu, eh bien, la conséquence que ça doit avoir, l'obligation que ça doit avoir, c'est la crainte de Dieu. C'est cela qui montre que vous honorez, que vous invoquez Dieu. Et dans, ça c'était 1 Pierre 1,17, mais dans 1 Pierre 2,17, il y a le petit verset qui dit simplement, l'apôtre Pierre dit, craignez Dieu. Et là, on est en plein dans le Nouveau Testament, hein, il dit, craignez Dieu, comme on le trouve dans l'Ancien Testament. On pourrait citer l'insistance de Paul, qui parle beaucoup aussi de du fait de craindre Dieu. J'ai mis juste un verset ici, dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Donc c'est écrit, « Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, comment ? Dans la crainte de Dieu. » D'accord ? Donc cela exige que l'on cherche à craindre Dieu dans notre manière de marcher, dans notre sanctification. Puis on pourrait parler de toutes les exhortations qu'il donne, rappelez-vous, dans la famille, le mari, la femme, l'obéissance des enfants envers les parents, où il dit de faire les choses, mais où il dit même aux serviteurs d'être soumis à leur maître dans la crainte du Seigneur. Beaucoup de fois, il emploie cette expression, dans la crainte du Seigneur. Donc tout ça pour brosser rapidement, très rapidement, on pourrait aller dans l'Apocalypse aussi, dans d'autres passages des Épîtres, ou dans le livre des Actes, où il est question de la crainte aussi, hein, où on voit que la crainte de Dieu est exigée. Corneille, par exemple, était considéré comme un homme qui craignait Dieu, hein. Il y a d'autres passages qu'on pourrait trouver ainsi. Donc la crainte de Dieu est une exigence de Dieu lui-même. Il y a des commandements à la crainte, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. Le deuxième, c'est que, donc c'est le point ici, petit B ici. Alors, est-ce que j'ai la même chose là? Voilà. C'est que la crainte de Dieu, comment j'ai mis ça ici? Oui, alors, la crainte de Dieu caractérise, je l'ai mis comme ça, le peuple de Dieu. La crainte de Dieu caractérise le peuple de Dieu. C'est-à-dire, si on nous avait demandé, si avant de, voilà, d'entamer le thème, je vous posais la question, qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui connaît un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu? Certainement, ce qui viendrait à notre esprit, je pense, hein, en tout cas, c'est ce qui vient parfois au mien, c'est, bon, ben, il lit la Bible, il chante des cantiques, le chrétien, il va à l'église. Et on définirait comme cela les chrétiens, par rapport aux non-chrétiens. Il a surveillé son langage, il fait des choses, etc. Ce qui n'est pas, ce sont pas des choses fausses. Mais on voit dans l'écriture que ce qui constitue vraiment la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que un a la crainte de Dieu et l'autre ne l'a pas. Et c'est comme ça que la Bible définit ici les choses. Donc, elle montre que les hommes, le premier point là, le petit A ici, c'est que les hommes impies sont décrits ici par l'absence de crainte de Dieu. Les hommes impies sont décrits par l'absence de crainte de Dieu. Alors, je vous lis un passage dans Jérémie chapitre, j'ai mis quelques extraits ici, mais je vais vous le lire un peu entier, dans Jérémie chapitre 5 et versets 22 et 24. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, elle commence avec une question sur la crainte de Dieu, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Afin, pour limite, voilà, limite qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Et puis ensuite il dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Il se révolte. Donc voilà comment Dieu décrit le peuple. Indocile, rebelle, et un peuple qui se révolte. Ils s'en vont, il dit, et ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu. Donc Dieu dit, voilà un cœur rebelle, un cœur qui se révolte contre Dieu, voilà comment il agit. Il ne dit pas, craignons l'Éternel notre Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Donc on voit, ce que je veux souligner ici, c'est que l'impie est décrit par son absence de crainte de Dieu. Dieu décrit celui qui se révolte contre lui, malgré tout ce qu'il peut voir, comme un homme qui, ou une femme aussi, hein, qui n'a pas la crainte de Dieu. L'impiété du peuple, d'accord, ici est décrit par son absence de crainte. Mais l'apôtre Paul dit la même chose dans le Nouveau Testament, quand il parle en Romains chapitre 3 des juifs et des non-juifs. Vous vous rappelez de ce passage où il parle du juif qui pèche avec la loi et du non-juif, du païen qui pèche sans la loi. Et puis il dit, nous avons déjà montré que les deux sont coupables devant Dieu. À la fois le juif et avec la loi et à la fois le non-juif sans la loi. Et puis il va décrire ce que c'est que le cœur qui ne connaît pas Dieu. Alors regardez ce passage avec moi parce qu'il est un petit peu plus long. Romains chapitre 3 et au verset 9. Romains chapitre 3. Donc c'est un ensemble de citations que fait Paul de plusieurs psaumes. Romains chapitre 3 et au verset 9. Il dit, crois donc, sommes-nous donc plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voilà, juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, là il y a une suite de citations, on va aller jusqu'au verset 18, il dit, il n'y a point de juste, verset 10, pas même un seul, verset 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, leur gosier est un sépulcre ouverts, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume, ils ont sous les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et puis vient ici la conclusion, presque ici, hein, c'est la citation du psaume 36, verset 1 ou 2, il dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Tout ce qu'il vient de décrire là, ça veut dire que ce sont des gens qui marchent de cette manière-là parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Vous voyez, donc, comment est décrit l'impie ici? Comme n'ayant pas la crainte de Dieu. Il est décrit par l'absence de crainte. Donc, on peut souligner ici que la crainte de Dieu caractérise vraiment le peuple de Dieu. En tout cas, l'absence de crainte, on le voit ici dans cette première partie, caractérise l'impie. Et souvenez-vous de Jésus lorsqu'il a donné son enseignement sur la prière en Luc chapitre 18, où il donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et il parle de une veuve et un juge inique. Et comment est-ce le juge, on voit que c'est un homme qui est méchant, d'accord, qui n'a d'égard pour personne. Comment est-ce que Jésus le décrit? Il lui fait parler cet homme, et cet homme dit, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. » Voilà comment il est décrit. Absence de crainte de Dieu, donc pas d'égard pour les autres. Vous voyez ici? Donc celui qui ne connaît pas vraiment Dieu, eh bien c'est celui qui n'a pas de crainte de Dieu. Donc les hommes impies sont décrits par l'absence de Dieu. C'était le point petit A. Le point petit B de cette deuxième partie, c'est que les hommes pieux sont décrits par leur crainte de Dieu. Les hommes pieux sont décrits par leur crainte de Dieu. Genèse 22, verset 12. Je l'ai mis, je pense, oui. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Et Abraham prend son fils, se met sur l'autel, s'apprête à le sacrifier. Et la Bible nous dit que Dieu envoie un ange qui arrête Abraham. Et voici les paroles de l'ange, ici vous les avez sous le papier. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous voyez ici, il dit que l'attitude d'obéissance dans quelque chose d'extraordinairement difficile que Dieu demande à Abraham. C'était le fils de la promesse. Il dit que c'est son fils, son unique. Hein. Il avait déjà eu Ismaël auparavant. Mais celui-ci, c'est son unique dans le sens où c'est le fils de la promesse. C'est celui par qui et toutes les promesses que Dieu a faites vont s'accomplir. Dieu lui demande de le sacrifier, il est prêt à le faire. Et Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Voilà comment, juste avec cette expression, est qualifiée sa piété, la crainte de Dieu. On peut regarder dans Job chapitre 1, verset 8. Ça, c'est Dieu ici qui parle avec, vous vous rappelez avec qui? Dans Job chapitre 1, avec Satan. Il parle de qui? Il parle de Job. C'est Dieu qui parle de Job à Satan. Et qu'est-ce que Dieu dit ici à Job, à Satan? Je vais vous lire. Il dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc là, on a déjà dans ce verset des définitions pour plus tard sur ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Mais en tout cas, on voit que sa piété, hein, son caractère droit est défini aussi par le fait qu'il craint Dieu. Par le fait qu'il craint Dieu. Souvenez-vous de Lydie, hein, donc acte 16, verset 14. Quelqu'un veut lire ça, acte 16, verset 14? Voilà, hein. Elle est juste définie par une femme qui craignait Dieu. Bien sûr, la conséquence, elle écoutait. Donc, on voit les personnes qui sont pieuses, on peut voir Lydie comme une femme pieuse, ici, sont des personnes qui sont décrites comme craignant Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, par exemple, le Messie est décrit aussi. Le Messie est décrit comme craignant l'Éternel. Regardez Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Et je ne sais pas si j'ai mis la bonne référence, je vais regarder. Ésaïe chapitre 8. C'est quel verset? 13. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Est-ce que j'ai mis le bon ici? Je crois que c'était 8-10, non? Non, 13, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Mais je cherche... j'ai mis une partie du verset ici. Il dit l'esprit de l'Éternel... Si quelqu'un trouve la référence. Hein, avec l'esprit de l'Éternel reposera... 11-2, merci. 11-2, voilà, très bien. Donc il est question ici, bien sûr, du royaume de David, mais par extension, on sait que David, c'est l'ancêtre du roi par excellence qui doit venir, hein, de Jésus-Christ. Et il dit, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte. » Et verset 3, « Il respirera » quoi ? La crainte de l'Éternel. Donc, le Messie est décrit comme respirant, vivant vraiment. Hein. Son souffle, on pourrait dire sa respiration, c'est d'être animé par l'Esprit et de craindre, de respirer la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui, mais il jugera les pauvres avec équité. Et quel est le roi capable de juger avec une telle justice? On sait bien que c'est Jésus-Christ ici. Donc il est décrit ici comme celui qui, je l'ai mis ici sur votre papier, je pense, hein, le Messie est décrit comme respirant, on pourrait mettre ici, hein, comme respirant la crainte de l'Éternel. Le Messie est décrit comme respirant la crainte de l'Éternel. Mais vous avez noté peut-être dans le verset 2 qu'il y a une description du Saint-Esprit ici. Vous avez fait attention à ça peut-être. Il est dit esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et esprit de crainte.
de l'Éternel. Donc, lorsque le croyant reçoit l'Esprit de Dieu, il reçoit un esprit pour craindre Dieu, un esprit de crainte de l'Éternel. Alors on aime dire, oui, c'est un esprit de force, pas de timidité, de force, de sagesse et d'amour, comme l'apôtre Paul dit à Timothée. Hein. On fait souvent, dans certains endroits, intervenir l'esprit pour montrer la puissance que l'on peut avoir, pour combattre je sais plus qui, etc. Mais la parole, on entend peu parler de cette caractéristique de l'esprit qui est l'esprit de crainte de l'Éternel. Et c'est cet esprit-là qui reposait sur le Messie. C'est celui aussi que Dieu donne à ses enfants. Dieu, il va implanter par son esprit sa crainte dans le cœur des croyants. Regardez Jérémie, chapitre 32, verset pas 33 à 40, mais 38 à 40. Hein. Ésaïe, chapitre... Jérémie, pardon, chapitre 32. Jérémie, chapitre 32. On va regarder les versets... C'est un passage qui commence au chapitre 31 où il est question de la nouvelle alliance. 31-31, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est ce que l'Épître aux Hébreux reprend pour parler de cette nouvelle alliance qui est meilleure que l'ancienne alliance. Et dans ce passage, au chapitre 32, le prophète dit, de la part du Seigneur, il dit, voici, verset 37, je rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère et dans ma fureur, dans une grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Verset 40, je traiterai avec eux une alliance éternelle, c'est une nouvelle alliance, une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. C'est pas que Dieu dit ici, s'ils me craignent, je resterai auprès d'eux. Il dit, je vais mettre un esprit, dans lequel il dit, je vais mettre un esprit nouveau, je leur donnerai un cœur nouveau, et je ferai pénétrer ma crainte au-dedans d'eux, afin qu'ils ne se détournent plus de moi. Il est question ici de la nouvelle alliance. Donc l'esprit que Dieu donne, c'est un esprit de crainte. Et donc le croyant est forcément celui qui est caractérisé par la crainte de Dieu. Parce qu'il reçoit l'Esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et l'Esprit de Christ, c'est un esprit de crainte que Dieu donne. Pas de peur, non, mais de crainte de Dieu, où on vénère Dieu. Et c'est pour ça que l'enfant de Dieu est caractérisé par la crainte de Dieu. Et quand on lit la Bible, on voit que les hommes de la Bible sont caractérisés par la crainte de Dieu, ici. Tous ceux qui sont décrits comme servant Dieu sont caractérisés par leur crainte de Dieu. Alors, on a une image, je vous lis juste le passage de cela dans Malachie chapitre 2, où Dieu parle de l'alliance qu'il a accomplie avec Lévi. Il dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Et ce que je lui accordais pour qu'il me craigne, et il a eu pour moi de la crainte, et il a tremblé devant mon nom. Il dit, voilà, je lui ai accordé une alliance, j'ai fait avec lui une alliance de paix, la vie, et je lui ai donné tout cela pour qu'il me craigne. Et le psaume 130, verset 4, je crois, dit, quelqu'un, psaume 130, verset 4, de mémoire, il parle du pardon, et je n'ai pas noté sur mon papier, mais où il dit... le pardon est auprès de toi, quelque chose comme ça, afin qu'on te craigne, il me semble. Psaume 130, c'est ça, quelqu'un là? Le pardon
Voilà, afin qu'on te craigne. Je trouve dans ce verset quelque chose qui relie le salut et la crainte de Dieu. Le pardon est auprès de Dieu. Dieu pardonne, il fait grâce, mais ce qu'il accorde, il accorde la crainte de son nom. Il accorde aux croyants de pouvoir le craindre. Et c'est pour cela que le croyant, il est caractérisé par la crainte de Dieu. Et puis, troisième point que je voudrais souligner. Donc, on a vu le premier point, c'était que la crainte de Dieu, est exigée par Dieu lui-même. Deuxièmement, on a vu que le caractère du peuple de Dieu, c'est la crainte. Il est caractérisé, le peuple de Dieu est caractérisé par la crainte de Dieu. Et puis, troisièmement, je voudrais juste souligner pour montrer un petit peu l'importance. Et on est juste en train de voir l'importance de la crainte, sans chercher à la définir, simplement voir l'importance de la crainte. Troisièmement, eh bien, la Bible montre la disposition favorable de Dieu envers ceux qui le craignent. La disposition favorable de Dieu envers ceux qui le craignent. Exode chapitre 1, verset 21. Il est question, il y a un exemple de sage-femme, il dit « Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer dans leur maison. » Dieu fit prospérer leur maison. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les premiers pointillés ici? Qu'est-ce qui est attaché à la crainte de Dieu? Si on regarde ce qui est arrivé aux sages-femmes. La bénédiction de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que toujours il y aura une protection, une... Il y a des gens qui par crainte de Dieu ont connu, Étienne par crainte de Dieu a connu la mort. Mais Dieu bénit, c'est une bénédiction que d'être auprès de lui. Et donc Dieu bénit ceux qui le craignent, y compris ces sages-femmes. Et là, on est dans un cas où il fallait dire non aux autorités. Voilà un cas où il fallait pas se soumettre à ce que l'autorité déclare. L'autorité disait qu'il fallait tuer tous les bébés masculins, et les femmes ont craint plus Dieu que le Pharaon. Et bien sûr, Dieu le leur a rendu. Et donc, on peut dire ici que la bénédiction de Dieu est attachée à sa crainte. Deuxième passage, on pourrait trouver d'autres, mais deuxième passage, Psaume 25, verset 12. Quelqu'un veut essayer de écrire déjà là-bas. Psaume 25, verset 12. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre... » la voie qu'il doit choisir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui est attaché à la crainte de Dieu ici? La direction. La direction pour sa vie. On pourrait mettre ça comme ça. La direction pour sa vie. Ou la direction de Dieu dans sa vie. Je vais mettre ça comme ça plutôt. La direction de Dieu dans sa vie est attachée à la crainte, à sa crainte. Alors, parfois, on cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle situation. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Oui ou non? Et on s'inquiète, on se triture avec la connaissance de la volonté de Dieu. Le passage semble dire ici la première chose avec laquelle il faut se soucier, avec laquelle il faut, voilà, il faut traiter, c'est est-ce que j'ai une vraie crainte de Dieu? Si je cherche la crainte de Dieu, eh bien, Dieu ne me laissera pas sans direction. C'est ce qu'il dit ce passage, que nous dit dans ce passage. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Il ne laisse jamais ses enfants s'égarer. Dieu ne joue pas avec ses enfants. Mais ceux qui le craignent, il les conduit. Troisième, 147:11, l'Éternel aime ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici, Qu'est-ce qui est attaché à la crainte de Dieu? L'amour, son amour. Dieu aime, il prend plaisir en ceux qui le craignent. D'accord? Donc là, on n'est pas dans un cas où on dit, voilà, Dieu aime tout le monde indépendamment. Ici, on voit qu'il y a une condition ici, cet amour qui est donné ici. Il y a une crainte. Ceux qui développent une crainte pour son nom font partie d'une sphère particulière que Dieu aime particulièrement. D'accord? Ça, c'est important de le souligner. Donc, la crainte, il faut la rechercher. Et puis, quatrièmement, si on lit Malachie chapitre 3, verset 16, à ceux qui craignent l'Éternel, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et il écouta. Juste ça, la suite. Donc il peut dire oui. Et un livre de souvenirs fut ouvert devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Qu'est-ce qui est attaché à sa crainte? Oui. L'écoute de Dieu, l'attention de Dieu. Hein? Dieu est attentif, il est dit. Hein? Dieu écoute, il est attentif à les prières. Dieu, est-ce que Dieu est toujours attentif à nos prières? Toujours? Oui? C'est pas l'enseignement de la Bible, hein? C'est pas du tout l'enseignement de la Bible. La Bible ne dit jamais, Dieu est toujours attentif à nos prières. Esaïe dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous et l'empêchent de vous écouter. Donc il y a des fois où Dieu n'écoute pas. Si on pêche, il n'écoute pas. Si le péché n'est pas confessé devant lui, on maintient la vie de péché. Dieu n'écoute pas. Il dit à Amos, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Quand vous chantez, quand vous vous offrez, je ne regarde même pas. Il dit, je n'écoute pas vos prières. C'est pas la peine de les faire. Donc, Dieu veut un cœur qui soit tout droit envers lui. Donc, il ne faut pas dire, Dieu nous écoute tout le temps. Non, il dit ici, ceux qui craignent l'Éternel, alors l'Éternel les écoute. Les écoute. D'accord? Il y a un passage dans les Proverbes, j'ai pas la référence, mais qui dit, si un homme se détourne pour ne pas écouter la voix de l'Éternel, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire que si on détourne le cœur, Dieu nous parle, on ne veut pas écouter, et on vient, oh Seigneur, etc. Il dit, la prière même est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, vous voyez combien c'est important cet aspect de la crainte de Dieu. Je vais m'arrêter là pour ce soir, hein. Juste avec deux conclusions. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce qu'on peut de ce petit survol, on pourrait dire, sur l'importance de la crainte de Dieu dans l'Écriture? Je le dis, on n'a pas cherché à définir ce que c'est que la crainte de Dieu ou comment on doit vivre dans la crainte de Dieu. On a juste regardé l'importance un peu très rapidement, survoler l'importance du thème. Deux choses qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a pas de véritable foi et de véritable relation avec Dieu sans crainte de Dieu. On le voit ici. Hein. La véritable foi craint Dieu. Le cœur régénéré craint Dieu. On reconnaît un chrétien véritable au fait qu'il craigne Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, c'est pas du tout cela. Mais il y aura dans sa vie une crainte de Dieu. Quand il péchera, il cherchera toujours à se repentir. Il aura le souci de ne pas offenser Dieu. D'accord? Alors, on rentre un petit peu déjà dans la définition, mais pour dire simplement, la Bible, avec tous ces exemples, nous montre qu'il n'y a pas de foi véritable, ni de relation véritable sans Dieu. Deuxième chose que l'on peut souligner, c'est qu'il est donc, si ce thème est si important, si la foi véritable et la relation véritable avec Dieu impliquent la crainte de Dieu, il est donc impératif pour le croyant de chercher à savoir ce qu'est la crainte de Dieu et à grandir dans la crainte de Dieu. Si c'est important, si la Bible nous montre qu'il n'y a pas de relation véritable avec Dieu sans la crainte de Dieu, il nous est indispensable de chercher à comprendre ce que la Bible appelle la crainte de Dieu et de chercher à vivre selon la crainte de Dieu. Et c'est ce que nous voulons essayer de faire avec l'aide de Dieu dans les fois à venir, c'est de définir un peu la crainte et puis demander à Dieu la grâce de vivre par elle. Psaume 86, je vous ai laissé ce verset sur le WhatsApp. Psaume 86, verset 1, je crois, c'était ça, non? Ou 11, je sais plus. 11, pardon. Psaume 86, verset 11, ça peut être notre prière ce soir. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Craindre Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut faire naturellement. Il faut l'Esprit de Dieu, il faut que Dieu agisse au-dedans de nous et pour incliner notre cœur à la crainte de son nom. Donc nous pouvons lui demander cela.